j'ai dit à maintes reprises que l'État, issu de la Révolution nationale, devait être autoritaire et hiérarchique.
Bonjour, dans le fil de l'histoire aujourd'hui, cinquième et dernier épisode de notre série « Le régime de Vichy fut-il une dictature ?» Une question que nous posons cette semaine à l'historien Laurent Joly. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment, à l'initiative de Pétain et Laval, la France entre dans la voie de la collaboration jusqu'à participer activement à la solution finale. Le 31 janvier 1943, la terrible bataille de Stalingrad, qui s'est achevée par la victoire soviétique et la reddition du maréchal Paulus et de ses 91 000 soldats, marque un tournant dans la guerre et la fin du mythe de l'invincibilité de l'armée allemande. Pourtant, moins de deux semaines plus tard, cette nouvelle donne n'enlève rien aux ailes de Pierre Laval envers l'Allemagne. Le 15 février 1943, il annonce en Conseil des ministres, je cite, « qu'il faut plus que jamais continuer la politique de collaboration ». Ce jour-là, Laval annonce la création du STO, Service du Travail Obligatoire. Pendant deux ans, tout jeune homme, né entre 1920 et 1922, peut être affecté à tout travail et en tout lieu, mais toujours pour l'Allemagne. Jusqu'en mars 1943, 250 000 jeunes Français sont envoyés en Allemagne, soit 100% de l'exigence formulée par les Allemands, qui n'en reviennent pas de tant de passivité. Rien ne semble pouvoir arrêter Laval. Pourtant, le STO est un séisme pour la société française. Sous le choc, l'obéissance et la résignation prédominent, mais elles laisseront bientôt place à la rancœur et à la désobéissance. Une partie des réfractaires du STO prendra la direction des maquis de la résistance.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
C'est un départ bien sympathique que nous assistons ce matin sur le quai de la gare de l'Est, mes chers auditeurs. Un nouveau contingent de jeunes des ateliers mécaniques de la Seine part pour l'Allemagne. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ce départ ?
Je suis très heureux de voir l'enthousiasme des jeunes qu'ils partent en Allemagne, parce que je crois qu'ils ont compris qu'ils partent non seulement pour la relève, mais aussi pour contribuer à la lutte contre le communisme, en forgeant des armes pour ceux qui se battent à l'Est, afin de nous préserver, nous et notre civilisation, aussi bien que l'Europe.
Je vous remercie beaucoup.
Laurent Joly, en quoi l'année 1943 marque un tournant pour le régime de Vichy ?
Alors, jusqu'à présent, on disait que le tournant, c'était novembre 1942, l'invasion de l'Afrique du Nord par les Alliés, et on décrivait un Vichy qui, après, est une simple marionnette.
Oui, parce qu'une invasion de la zone
voilà,
sud,
donc le territoire,
les Allemands prennent tout le territoire.
Absolument, l'ensemble de la France est occupée, et finalement, Laval n'est plus qu'un chef fantoche et une marionnette. Éric Jennings montre bien dans son chapitre qu'en novembre 1942, Vichy a fait le choix de poursuivre pleinement la politique de collaboration et de continuer à mettre toutes les marges de manœuvre qu'il continue à avoir, parce qu'il y a encore le contrôle de l'État, de la police, pour donner satisfaction aux Allemands et faire réussir la politique de collaboration. Donc on a un homme, Laval, qui est très amer, qui est très violent, décidé à mater son peuple. Et ça marche. Le chapitre sur le STO de Raphaël Spina est ahurissant parce qu'on découvre qu'effectivement, le gouvernement français qui est en place, hein, c'est les mêmes hommes, hein, ils ont un peu changé, mais depuis 40, c'est les mêmes hommes, mais ils continuent sans scier. Et la société est aussi un peu prise parce que la police continue à obéir et les taux de réussite des réquisitions sont absolument spectaculaires.
On est à 100%. Comprend cette obstination de Laval et à la fois cette passivité de la population française ?
L'obstination, elle est liée au fait qu'il a fait un choix sans retour. Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Sinon, sans elle, ce serait le triomphe du bolchevisme. Donc, il a fait ce choix-là. Il ne veut pas revenir en arrière. Pour autant, à l'été 1943, et c'est là où on établit le vrai tournant, à la fois pour le gouvernement et pour la société, il y a eu Stalingrad, il y a eu Koursk, et l'été 43, Mussolini lui-même est renversé par le Grand Conseil fasciste et l'allié italien qui se retourne vers les alliés. Donc là, Laval comprend que les carottes sont cuites pour les Allemands et il va même utiliser sa marge de manœuvre pour refuser de nouvelles rafles contre les Juifs. Donc on voit que là, c'est plus la bonne carte pour les Allemands et les Allemands vont lui imposer la nomination du chef de la milice, qui est cette troupe de choc. Darnan, son chef, a prêté serment d'allégeance à Hitler. Et donc, c'est la dernière partie, Tal Brutmann, l'État milicien. On voit des hommes qui sont liés à l'Allemagne.
1943, donc, c'est la création aussi par Vichy de la milice, une organisation politique et paramilitaire de type fasciste dirigée par Joseph Darnand, officier français de la Waffen-SS. Sur le modèle de la Gestapo, les miliciens participent avec ardeur à la traque des juifs, des résistants et des réfractaires au STO, procédant à des arrestations arbitraires, des rafles, des exécutions sommaires et pratiquant la torture. Mais au début de l'année 1944, signe un durcissement politique, Joseph Darnand est nommé secrétaire général au maintien de l'ordre par le gouvernement de Vichy. Un autre milicien, Philippe Henriot, entre lui aussi au gouvernement, en charge de l'information et de la propagande. Un nouveau gouvernement qui est applaudi à Berlin. Désormais, l'ultra-collaboration est au pouvoir et ne le quittera plus jusqu'à la libération et la chute du régime de Vichy. Laurent Joly, est-ce qu'on peut dire que le régime de Vichy est non seulement une dictature, mais il devient là fasciste, presque nazi ?
Oui, presque nazi, c'est l'idée que développe Tal Brugmann dans son chapitre. C'est pas une dérive fasciste, comme on le lit parfois, c'est une dérive nazie. Les responsables de la milice, et Darnand en premier chef, ils se situent complètement dans une perspective nazie, et donc ils ne dissocient jamais la répression qu'ils mènent à l'intérieur avec la nécessité de soutenir l'effort de guerre allemand. Donc ils sont vraiment dans cette logique d'aider l'Allemagne à triompher du bolchevisme. C'est ça leur ligne, et c'est ça qui explique ce durcissement et cette violence tout à fait stupéfiante qu'ils vont mettre en œuvre. Et un Laval et un Pétain qui continuent à soutenir, la milice est soutenue publiquement par le maréchal Pétain lui-même, quasiment jusqu'à la fin. C'est qu'en août 1944 que Pétain s'émeut des crimes de la milice.
Dans votre livre, Laurent Joly, vous constatez, on le constate tous, que la France a été le seul pays occupé d'Europe de l'Ouest à faire ce choix de maintenir un État souverain en l'orientant tout entier dans le sens de la collaboration avec le Troisième Reich. Comment expliquer que la France, justement, fasse ce choix alors que d'autres ne le font pas ? Il y avait d'autres choix possibles.
Il y avait d'autres choix possibles. C'est-à-dire que la France a payé la facture de sa polarisation politique extrême. L'arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936, dirigé par un juif marxiste, Léon Blum, a révulsé toute une partie de la droite et de l'extrême droite. Et quand ces gens-là sont en mesure de prendre le pouvoir, eh ben, ils se livrent à des vengeances. Et la France, qui aurait dû faire comme le gouvernement belge, qui aurait dû faire comme le gouvernement hollandais, norvégien, on aurait pu avoir un Kiesling en France. Non, on a des gens qui étaient des personnalités connues, qui ont décidé de mener une guerre franco-française. Donc cette situation un peu de guerre civile symbolique et puis presque réelle avec la milice, elle est liée à nos fractures politiques des années 30.
Vous dites, Laurent Joly, que c'est un choix qui continue de hanter notre imaginaire politique. Vous dites que Vichy est un cas extrême de l'amoralité, amoralité en un mot, amoralité politique, cynisme.
Oui, parce qu'on voit qu'en fait, les grandes étapes du gouvernement et de l'histoire de Vichy, Laval a toujours menti. C'est toujours le mensonge. Juillet 40, c'est le mensonge. Juillet 42, pour convaincre, c'est le mensonge.
Et pourquoi ça continue de hanter notre imaginaire politique ?
Parce que la France a été désunie et cette fracture entre gaullistes et pétainistes, elle a marqué notre paysage politique. Jusqu'à présent, ça va peut-être changer, mais on voit bien que l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, on est en train de le perdre, pour le meilleur et pour le pire. Mais hélas, pour le pire, essentiellement, on voit bien qu'en France, l'alliance entre la droite et l'extrême droite n'a jamais pu marcher, parce que comme le disait Alain Juppé, il y a la Croix de Lorraine entre nous et eux. Donc il y a un besoin aussi aujourd'hui, pour nous vendre cette union des droites que certains essayent de promouvoir, de réécrire cette histoire, de reprendre les mythes de l'après-guerre, parce qu'après-guerre, la France voulait se réconcilier. On a essayé de faire croire aux gens qu'il y avait eu une entente secrète entre Pétain, De Gaulle, Le Glaive et Le Bouclier. Tout ça est un mensonge pour cacher la profondeur de ce traumatisme, parce que la France, elle a été divisée, effectivement, comme vous le disiez, c'est le seul pays qui a été dans cette situation en Europe.
Laurent Joly, je voudrais terminer en conclusion en citant un des témoins que vous évoquez dans votre livre, c'est le pasteur Buckner, un pasteur protestant, qui déclare en juillet 1940, seulement peu de temps donc après l'instauration du régime de Vichy, il dit « Ce qui aurait paru incroyable il y a quelques semaines s'est accompli. La France n'est plus une démocratie, le pouvoir personnel est instauré. » Il dit une vérité historique qu'on a tendance un peu à oublier, c'est que ce qui est acquis eh bien, est précieux, et c'est la démocratie. Tout ça peut se perdre très vite dans une situation de crise, plus rapidement qu'on ne pense.
Absolument, c'est vrai que c'est des citations qui n'ont pas été choisies par hasard. Elle résonne avec aujourd'hui. En début d'année, on se disait, mais c'est fini, les États-Unis vont basculer du côté russe. On a comme ça ces moments de saisissement où on se dit que la démocratie, c'est très fragile et aujourd'hui, c'est vraiment en péril.
Merci beaucoup, Laurent Joly. De vous, on peut lire Vichy, donc Histoire d'une dictature, 1940-1944, paru chez Talendier, avec les contributions précieuses aussi d'Anne-Sophie Anglaret, Tal Brutmann, Bernard Costagliola, Julian Jackson, Eric Jennings, Mike Honmayer, Renaud Meltz, Virginie Sansico, Raphaël Spina et Bénédicte Vergès-Chignon. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée de Frédéric Martin, à la technique Benjamin Troussin et Franck Malabry. Merci à vous pour les moyens techniques. Et je remercie les Rendez-vous de l'Histoire de Blois qui nous accueillent ici dans l'amphithéâtre Samuel Paty. Et merci à son public attentif et chaleureux. Vous pouvez vous abonner au podcast du Fil de l'Histoire sur l'appli Radio France. J'attends vos commentaires, comme toujours, sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook.